France Inter, le 18-20.
Dis-moi quelle énergie tu consommes et je te dirai qui tu es. En gros, il est peut-être ça le nœud du problème énergétique en France qu'Emmanuel Macron a tenté de trancher dans un contexte de fronde et d'exaspération à côté duquel il est difficile de passer. Depuis hier, le gouvernement tente d'expliquer que la transition est bien écologique mais aussi solidaire. Aujourd'hui, on a donc parlé nucléaire, renouvelable et rénovation de nos vieilles chaudières qui doivent faire baisser nos factures. Sur le nucléaire, on y viendra si vous le voulez. La barre des 50% de la part d'électricité sera franchie en 2030. 35, coup d'accélérateur sur l'éolien, sur le solaire qui doit monter à 32% de la consommation d'énergie du pays, ce sera pour 2030. Quant à la rénovation thermique, votre maison, votre appartement, le crédit d'impôt rénovation énergétique sera bonifié pour les ménages modestes en 2020. Une prime à la conversion des chaudières au fioul de 2 à 3 000 euros qui pour l'instant ne touche pas les logements collectifs. Et puis au passage, toujours rien si vous changez vos fenêtres pour du double vitrage. Et sinon, est-ce que vous vous y retrouvez, vous, très franchement, là-dedans? Est-ce que ce maquis des aides vous parle? Est-ce que vous savez en citer? Est-ce que vous savez, au fond, comment vous vous chaufferez dans 10 ans? Comment nous chaufferons tous dans 10 ans? Est-ce que vous saviez d'où viendra votre électricité, votre chauffage, d'une centrale nucléaire, d'une éolienne ou d'un panneau solaire? Est-ce que vous savez ce qu'il faudra privilégier aujourd'hui? Et que dire de ces 7 millions de Français qui vivent toujours en état de précarité énergétique, c'est-à-dire dont le chauffage, dans le meilleur des cas, est un radiateur grille-pain. Bref, une facture moins chère, mais à quel prix et comment? À vous de nous le dire. Vous avez des solutions, des idées, des questions, c'est ici.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
Jean-Baptiste, c'est vous qui commencez. Soyez le bienvenu sur France Inter. Bonsoir.
Merci d'avoir pris mon appel.
Et on vous écoute.
Alors moi j'appelais parce que je voulais témoigner d'une situation presque amusante quand on entend les propositions actuelles qui sont émises par le président. Donc on est en couple, on a 4 enfants, on a acheté notre maison à rénover, une ancienne maison, et ça fait 10 ans qu'on la rénove et qu'on bénéficie des différents prêts qui ont pu exister, des déductions d'impôts qui ont pu nous être offertes, et on a atteint un niveau d'emprunt qui fait qu'on ne pourra pas emprunter pour les nouvelles propositions qui ont été émises dans la journée pour faire mieux, pour finir d'isoler les murs, pour changer de voiture, pour qu'elle soit mieux écologique. On est au maximum, même si les banques font des prêts à taux zéro, on n'empruntera pas plus. Mmh. Voilà. Et donc on est coincé, on va subir l'augmentation qui existe, l'augmentation du coût de l'essence. On ne pourra pas faire mieux non plus. On est dans une ville isolée, dans les champs, qui s'appelle Pithiviers, 9000 habitants. Il n'y a pas de gare, il n'y a pas de train. Il y a l'obligation de prendre la voiture pour pouvoir bénéficier de la plupart des services médicaux de pointe pour creuser. Il y a bien sûr un peu sur le niveau local, mais on est obligé d'aller à Orléans, d'aller à Paris. Pour se former aussi, voilà, pour travailler, certains, nous ça va, on peut travailler sur place, mais beaucoup le font, pour pouvoir voir la famille et quitter notre territoire. La voiture, on en est dépendant. Minimum 50 km pour voir autre chose que des champs.
Ce que vous dites, Jean-Baptiste, c'est que, je vais le dire comme ça, vous êtes bon élève. En gros, vous faites ce qu'il faut, vous avez fait ce qu'il faut parce que vous y croyez, mais est-ce que vous vous y retrouvez? Compliqué, visiblement.
On s'y retrouve parce que nécessairement la facture de gaz a baissé.
C'est ce que j'allais vous demander.
Par rapport à il y a 10 ans, quand on a acheté la maison. Mais on peut pas faire plus. Et pourtant, on entend qu'il faut faire mieux, on entend qu'on doit faire mieux, et on voit le coût des choses qui augmente. Mais on peut pas emprunter plus pour améliorer et refaire baisser le coût des choses.
Et merci beaucoup pour ce témoignage qui entame bien notre discussion. Jean-Baptiste, merci pour vous répondre, pour discuter ensemble. Un autre Jean-Baptiste Lebrun, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'association Clair Réseau pour la transition énergétique. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste. Bonsoir Yves Marignac.
Bonsoir.
Vous êtes expert sur l'énergie et le climat, porte-parole de Negawatt, l'association qui promeut donc une moindre dépendance aux énergies fossiles et nucléaires. Et bonsoir à vous Sandy Dauphin, spécialiste environnement de France Inter. Vous allez nous aider aussi à naviguer au milieu de tous ces maquis. J'aimerais qu'on revienne sur ce que nous dit Jean-Baptiste à l'instant. Tiens, commençons avec vous, Jean-Baptiste Lebrun, par exemple. Il fait tout ce qu'il faut, Jean-Baptiste, y compris, alors donc pour sa voiture, il nous l'a dit, mais y compris pour isoler sa maison, y compris pour faire tomber sa facture. Il fait ce qu'il faut, mais c'est jamais assez. Au fond, c'est le sentiment qu'il a. Est-ce que c'est un sentiment, selon vous, qui est partagé?
Alors, je comprends effectivement que pour les personnes qui s'engagent dans ce genre de d'aventure, ça puisse effectivement donner ce sentiment d'être compliqué, difficile, sans doute trop. C'est vrai que les dispositifs aujourd'hui, ils sont compliqués. Il y a beaucoup d'aides différentes. Il y a souvent aussi des professionnels, notamment des intermédiaires, que ce soit les banquiers, les notaires ou ce genre de professions qui ne sont pas suffisamment aujourd'hui encore assez formés à ce type de choses pour accompagner ces processus. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de constater que quand on y va, même quand on a des difficultés, ça peut marcher. Donc là, l'exemple de Jean-Baptiste montre qu'effectivement, la facture de gaz diminue. Et finalement, la rénovation, c'est le seul vrai moyen de faire tomber sa facture. Et ça, c'est un élément très important et auquel il faut continuer de croire.
Et en même temps, Yves Marignac, moi je suis frappé par ce que disait d'ailleurs Emmanuel Macron tout à l'heure. Lui-même dit, moi le chèque énergie par exemple, je ne sais pas comment ça marche, et je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que ça commence par là, non ? Faire le tri dans le maquis. Alors, parce que visiblement, il y a beaucoup de choses, mais qui sait exactement ce à quoi il a droit ?
Alors effectivement, il y a toute la problématique des offres, des dispositifs, etc. Il faut simplifier tout ça, faire un choc de simplification peut-être, le terme était à la mode il y a quelques années, on l'a un peu oublié. Mais ça, c'est un peu de la technique. Ça s'ajuste, il faut faire des choses. C'est pas la partie la plus difficile. Moi, ce qui me frappe dans la question de Jean-Baptiste, c'est ce qu'il évoque sur un territoire qui où la seule option pour se déplacer, c'est la voiture. Et ce qui illustre, je trouve, son témoignage, c'est justement la limite des ressources que chacun peut trouver, même en s'appuyant sur les dispositifs d'aide, etc., pour agir. Et le point où l'action ne peut être que collective. Quand on parle organisation du territoire, quand on parle mobilité, il faut que ce soit collectif. Et moi, j'ai trouvé intéressant, justement ce matin, dans le discours d'Emmanuel Macron, un progrès, je trouve, par rapport aux propos de ces dernières semaines où on a juste opposé aux gilets jaunes la prime à la conversion, etc. Et d'ailleurs, dans le document sur la PPE, il est question de sortir de la dépendance à l'automobile, indépendamment du type de véhiculé. Emmanuel Macron, ce matin, il a expliqué que cette dépendance, elle était le produit de 40 ans de décisions successives, d'organisation du territoire, de choix de véhicules. Ça laisse entendre que, d'abord, il faut que les pouvoirs publics se saisissent profondément de ça, mais ça laisse entendre qu'il faudrait 40 ans pour l'organiser dans l'autre sens si on laisse les choses faire. Et c'est là, justement, qu'on a besoin, parce qu'il y a une urgence vis-à-vis de la transition énergétique, de faire beaucoup plus vite. Et donc, c'est bien, juste pour finir, de développer, de simplifier les offres qui permettent aux gens de faire de la rénovation, qui permettent aux gens d'aller sur des véhicules plus propres. Mais c'est indispensable d'engager des actions beaucoup plus profondes et rapides pour organiser différemment nos modes de vie, pour qu'on puisse beaucoup plus facilement consommer moins.
Oui, oui. Alors ça, effectivement, alors je ne veux pas qu'on refasse le téléphone sonne d'hier sur lequel on était un peu sur ces problématiques-là. Mais ce que nous dit Jean-Baptiste, c'est que pour l'heure, il n'a pas le choix. De toute façon, c'est un peu ce qu'on a entendu. C'est aussi ce qu'on a entendu partout.
On se heurte à cette limite. C'est au pouvoir public de diversifier des choix, d'offrir plus de transports collectifs, d'offrir des alternatives par rapport aux points sur lesquels les individus, avec toute la bonne volonté du monde, se retrouvent coincés.
Parce que justement, moi, ce que j'entends en creux dans ce que dit Jean-Baptiste, c'est que c'est à nous de faire l'effort. Et c'est aussi ça qu'on entend en ce moment, en fait. C'est à nous de faire l'effort. Donc, à nous d'aller dans le maquis des aides pour trouver une solution thermique qui serait meilleure. Pour... Alors, effectivement, au bout du compte, c'est ma facture. Mais enfin, c'est moi qui dois me débrouiller pour savoir ce à quoi j'ai droit, à quel moment. Bah, pas les fenêtres, on est désolé. Mais la chaudière, ce sera oui, voyez avec un tel, voyez avec personne. La voiture, c'est pareil. Bah, à vous de vous débrouiller, essayez de trouver moins cher. À un moment, quand même, est-ce qu'on peut pas essayer de faire en sorte que cette logique s'inverse, en fait? C'est pas seulement moi qui fais l'effort, je veux bien le faire, c'est pas seulement moi, mais ça marche aussi dans l'autre sens, non? Vous croyez pas?
C'est même quelque chose qui remonte régulièrement, des sondages, des actions. Enfin, chaque fois qu'on délibère avec les citoyens, on l'avait fait notamment au moment du débat national sur la transition énergétique en 2013, sur la question de la transition énergétique, ils disent, on comprend la nécessité, on comprend que ça peut être une opportunité, on est prêt à s'engager et à agir, mais certainement pas tout seul. Il faut que les collectivités et les entreprises le fassent également.
Jean-Baptiste, je voudrais réintervenir. J'ai vu que vous vouliez la parole aussi, Sandy Dauphin. Jean-Baptiste, je vous en prie.
Alors, je vais faire très court. L'objet de mon intervention, c'était aussi de poser cette question. Qu'est-ce que le président, le gouvernement, les députés, quand ils vont travailler, qu'est-ce qu'ils peuvent envisager? Un, pour les familles nombreuses. Deux, pour les gens qui sont dans une ruralité grave. Moi, je la qualifie de grave, cette ruralité, puisqu'on est coupé du monde. Et on, voilà. qu'est-ce qu'ils peuvent envisager, puisqu'ils commencent à faire des propositions pour arranger tout ça, en dehors de inciter les gens à se réendetter encore.
Jean-Baptiste Lebrun, pardon, je vous piège avec cette question, j'espère que non, mais...
Je rejoins ce que disait Yves Marignac, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut, de la part des pouvoirs publics, et en particulier du gouvernement, des mesures structurantes. Sur la question de la rénovation, il faut que les aides soient beaucoup plus simples, il faut aussi qu'elles soient plus incitatives, c'est-à-dire que ce soit plus performant, qu'on puisse, avec une demande assez simple et un accompagnement local, humain, indépendant, neutre, performant, pouvoir du premier coup finalement avoir une visibilité sur l'ensemble de son projet. Et ça, effectivement, ça relève d'une responsabilité collective et donc dans notre système politique, des pouvoirs publics en particulier.
Sandy Defin, pardon.
Oui, rapidement, dans son discours d'ailleurs ce matin, Emmanuel Macron a bien dit, hein, il fallait arrêter avec cette impression que les solutions venaient toutes faites de Paris, qu'il fallait travailler avec les projets, avec les territoires sur des solutions. Mais juste pour préciser, on va quand même se heurter à une réalité budgétaire, parce que créer des transports publics, aménager les routes, des pistes cyclables, il faut aussi trouver les moyens financiers pour le faire.
C'est précisément une mauvaise façon de voir les choses. C'est-à-dire, moi, d'abord, je trouve terrible qu'on parle de ruralité grave. La ruralité, ça devrait être quelque chose de
joyeux,
positif, et évidemment. Pourquoi on parle de ruralité grave? Parce que depuis des années et des décennies, on a abandonné ces territoires, et on les a abandonnés au motif d'une logique budgétaire qui veut que maintenir des services, maintenir des commerces dans ces territoires n'est
je
pas suffisamment rentable.
Je dis juste que c'est l'argument qu'on entend à chaque fois.
La logique budgétaire, elle a conduit à faire dépérir ces territoires. Donc, il faut changer de focale pour regarder comment s'apprécient économiquement ces choses. Quand on met des services dans les territoires ruraux, évidemment, ça coûte plus cher que de mettre ces services à des endroits où c'est dense. Mais en fait, ça fait faire des économies aux habitants de ces territoires en termes de déplacement, et donc des économies à la collectivité. Donc il faut changer la manière de regarder toutes ces choses, justement, pour impulser ces solutions collectives qui aideront les individus et les ménages à faire cette transformation.
Bonsoir Pierre.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu Pierre, on vous écoute.
Merci. Moi, pour me présenter rapidement, je travaille dans la pose de poêle à bois, poêle à granulés, donc pour permettre justement de réduire les coûts de l'électricité ou du chauffage au gaz ou fuel, ce genre de choses. Globalement, je pense qu'il faudrait effectivement que l'État investisse davantage dans tout ce qui est énergie renouvelable de toutes sortes, puisqu'il faut créer un mix énergétique et pas être dépendant d'une seule technologie, pas juste de l'éolien, pas juste du solaire. Je pense qu'il faut vraiment tout un tas de choses. Je pense qu'il faut sortir du nucléaire d'une façon ou d'une autre. Plus elle sera étudiée et plus ce sera facile d'en sortir. Je pense qu'aujourd'hui, si on devait réellement payer le prix réel du kilowattheure, je pense qu'on serait encore plus tous au quotidien dans une grande difficulté financière, parce que pour que le nucléaire soit rentable, on le paye clairement pas ce qu'on devrait le payer. L'État le subventionne, tant mieux pour nous, mais à un moment donné, ça nous coûte. Puisqu'il n'y a qu'à voir le PR de Flamanville, c'est toujours pas fini d'être réalisé, mais on le paye tous les jours. Je pense que l'État, s'il investissait l'argent aux bons endroits, ça lui coûterait sur l'instant, mais avec tout ce qui pourrait être retiré d'éléments indirects, notamment la santé, qui coûte plusieurs centaines de milliards à la France. Je pense que si on mettait en place des transports en commun beaucoup plus importants pour inciter les citadins, les hyper-citadins à se passer complètement de leur voiture et ne faire que en louer pour les quelques sorties occasionnelles qu'ils font. C'est tout un tas de petites choses qui, en fait, cumulées, même si ça coûterait à l'État dans un premier temps d'investir, ça c'est clair, donc ça nous coûterait à nous de façon indirecte, mais on y gagnerait tous d'une façon ou d'une autre.
Vous, pardon Pierre de vous interrompre, moi je suis intrigué par votre... Vous posez des poêles à bois, je voudrais savoir où, en fait. Est-ce que vous êtes dans une zone urbaine? Est-ce que vous posez plutôt dans des zones rurales? Où est-ce que vous travaillez le plus souvent?
C'est simple, je travaille en Bretagne, je travaille sur tous les Côtes d'Armor et sur une partie du Finistère Nord. Je fais à peu près 60 000 km par an, donc autant dire que l'augmentation du prix du carburant, clairement, on la ressent. On étudie sérieusement avec mes chefs le fait de basculer sur un véhicule électrique. Mais pareil, ça a un coût et ça se médite, puisque même si les véhicules électriques aujourd'hui sont quand même pas mal, vu le nombre de kilomètres que je fais au quotidien, c'est encore un petit peu compliqué, puisque j'ai des journées où je peux faire 400 km. Certes, moi ce que j'ai pensé, c'est bêtement proposer aux clients de me permettre de me recharger chez eux, mais ça resterait des charges lentes. Donc c'est quelque chose qu'on étudie, que je regarde de très près. Moi, j'ai moi-même un véhicule électrique que j'utilise autant que faire se peut. Et oui, le coût du carburant nous touche tous, mais je pense que c'est peut-être un bien pour un mal. Il faut aussi qu'on essaye, dans la mesure de nos moyens, de basculer. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les véhicules électriques d'occasion, il y a déjà beaucoup de gens qui peuvent, à défaut de passer au 100% électrique en voiture, peuvent déjà amorcer un essai. Beaucoup de gens ont peur de l'électrique parce qu'ils pensent qu'ils n'auront pas ce qu'il faut pour faire leur route au quotidien. Soyons clairs, je connais peu de personnes autour de moi qui fait 150 km dans sa journée juste en aller.
Et merci.
Le simple fait de pouvoir se recharger au travail, déjà, ça permettrait de recharger une bonne partie du véhicule et de pouvoir rentrer le soir tranquillement.
Merci Pierre pour votre témoignage. Moi, je suis assez curieuse. Combien ça coûte un véhicule électrique d'occasion aujourd'hui, en fait? Parce que le marché étant extrêmement neuf, en fait, c'est des véhicules d'occasion, on n'en trouve pas tant que ça. Je suis assez curieuse de ça. Bah, tiens, si quelqu'un qui nous écoute peut nous dire combien coûte un véhicule électrique d'occasion, parce que moi, je suis quand même assez curieuse de ça. Yves Marignac, il y a une chose qui est vraie également. Dans ce que dit Pierre, nous avons pour l'instant une électricité qui n'est pas chère par rapport à nos voisins. Et si elle n'est pas chère, est-ce que c'est pas aussi parce que pour l'instant on a privilégié le nucléaire? Qu'est-ce qui se passerait si demain il n'y en avait plus? Qu'est-ce qui se passerait au niveau de notre facture?
Il y a beaucoup de choses vraies dans ce qu'a dit Pierre d'abord, mais sur la question du nucléaire, alors il faut pas non plus exagérer le fait que le nucléaire soit beaucoup plus cher et subventionné de manière cachée que le prix qui nous est facturé. Il y a un coût caché qui est notamment le coût futur du démantèlement et des déchets qui n'est pas suffisamment provisionné aujourd'hui. Mais effectivement, la France a fait le choix de développer massivement le nucléaire. Elle l'a fait à un moment où les prix de l'énergie étaient globalement chers et où elle a pu donc amortir la construction de ce parc assez rapidement, ce qui fait qu'aujourd'hui, les réacteurs sont globalement rentables et permettent d'avoir une électricité effectivement moins chère que nos voisins. On perd une partie de cet avantage au passage parce qu'on consomme en moyenne plus d'électricité que nos voisins et donc notre facture finalement n'est pas beaucoup plus faible que la leur. Mais la réalité dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que ce parc nucléaire il vieillit et que quels que soient les choix qui sont devant nous, que ce soit d'investir pour prolonger la durée de vie de ces réacteurs, de les remplacer par des nouveaux réacteurs avec toute la question de la faisabilité même de le faire avec des réacteurs EPR ou d'investir massivement dans des énergies renouvelables, on a devant nous le produit du fait de n'avoir pas investi dans notre système électrique pendant des années et des années, et donc une augmentation inévitable des prix de l'électricité. Si on n'anticipe pas ça, et si on n'accompagne pas cette augmentation des prix par des actions aidant les gens à mieux consommer et moins consommer l'électricité, on va reproduire d'ici peu la même crise qu'avec aujourd'hui les prix du carburant.
Jean-Baptiste Lebrun, je ne vous ai pas oublié, je voudrais qu'on écoute Benoît juste avant. Bonsoir Benoît.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Benoît.
Vous m'entendez tous?
Je vous entends moyen bien, donc enlevez votre haut-parleur et parlez dans votre téléphone.
Je fais ça tout de suite.
Voilà, parfait.
Oui, donc j'appelais pour dire, voilà, on parle de sortir du nucléaire, très bien. On est fin novembre. Il fait nuit.
Et bon appétit, sinon, Benoît. Allez-y.
À Vienne, il fait nuit en Isère.
Ouais.
Il fait nuit, on n'a pas de soleil, il n'y a pas de vent. Sans nucléaire, comment je fais pour avoir de l'électricité? Comment je fournis tous les Français qui en ont besoin? Je veux bien qu'on sorte du nucléaire, mais comment on fait?
Eh ben, Benoît, on va répondre à votre question parce que ça fait partie des choses basiques, des questions basiques que posent les gens. Vous faites bien de nous le demander, Benoît, Jean-Baptiste Lebrun. À quel moment comment on fait pour expliquer aux gens que il y a pas de relation de cause à effet, je vais le dire de manière assez caricaturale, entre le panneau solaire et le fait qu'il y ait du soleil ou qu'il n'y en ait pas, en fait?
Alors, si vous permettez, je laisserai Yves Marignac répondre à cette question parce que le scénario Négawatt a vraiment creusé cette question. Par contre, moi, je voulais revenir sur le témoignage de Pierre. Il y a deux choses qui me semblent vraiment intéressantes dans ce qu'il a dit. D'une part, c'est la question des investissements et de la rentabilité en coût global. Cette démonstration-là, elle est faite. Elle est faite depuis longtemps et on sait aujourd'hui qu'investir dans la transition, c'est globalement rentable pour tout le monde. Maintenant, ce qu'il faut, c'est adapter nos outils de décision de court terme pour s'adapter à cette réalité-là.
Allez, globalement rentable pour tout le monde, y compris pour moi, oui. Mais en combien de temps? Attendez, parce que le globalement rentable, c'est aussi ça qu'on entend dans la rue. Globalement rentable, ça, oui, à 10 ou 15 ans peut-être, mais
ça
moi,
dépendra,
ma fin de mois. Pardon,
ça dépendra des outils qu'on se donne. Et c'est là où, par exemple, la question d'un prix du carbone qui a beaucoup fait débat, qui fait beaucoup débat en ce moment, elle est intéressante parce que justement, elle montre, elle donne un signe que, en fait, dans les choix individuels, on va vers un système qui est globalement, qui correspond à notre vision d'ensemble pour la société. Si on le fait pas, on le paiera autrement. Soit dans les factures d'énergie, soit dans les coûts d'assurance pour les catastrophes climatiques, soit dans tous ces coûts cachés, la santé, comme a évoqué Pierre. Le deuxième point sur lequel je voulais réagir, c'est cette question du territoire, et notamment de repartir de, du métier de Pierre, donc qui est installateur d'énergie renouvelable. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant, et je fais lien avec l'intervention précédente sur la ruralité, c'est qu'on a aujourd'hui territoires qui se mobilisent pour avoir des projets de valorisation territoriale assises sur la transition énergétique. Et notamment en Bretagne, il y a un exemple assez connu qui s'appelle le territoire du Menet et qui a vraiment construit toute sa stratégie territoriale, y compris de développement économique, y compris de création d'emplois, autour de cette question de transition énergétique, notamment de parcs éoliens citoyens ou d'unités de méthanisation territoriale.
Mais pardon de vous ramener à des choses très concrètes et à ce qu'on entend aujourd'hui. Là, on installe des poêles à granulés. Emmanuel Macron annonce aujourd'hui que la prime à la conversion pour les chaudières au fioul, par exemple, sera de 2 à 3 000 euros en fonction du revenu. Est-ce que ça suffit? Tout simplement. Est-ce que ça suffit? Si moi, j'ai chez moi une chaudière au fioul, combien ça va me coûter d'installer un poêle à granulés comme celui de notre ami dont j'ai oublié le prénom?
Pierre. Je peux vous répondre par une question. C'est est-ce que c'est utile de changer sa chaudière au fioul dans une passoire qui, dans un logement qui reste une passoire énergétique? Au clair, nous, on défend l'idée d'avoir des projets globaux de rénovation, une vision globale.
Ça veut dire qu'il ne faut pas commencer par le fioul, il faut commencer par la maison.
Enfin, il faut d'abord isoler. Il faut un audit, il faut un accompagnement et il faut d'abord isoler sa façade, son toit, avant de changer d'énergie.
Ben, et changer ses fenêtres, mais il se trouve que les fenêtres ne font pas partie du package aujourd'hui. Non. Enfin, vous voyez, il y a des fois où on a l'impression qu'on tourne un peu en rond.
C'est quand même vrai que les gens ne savent pas par où commencer. Ils sont mal pistés. C'est-à-dire, à qui on s'adresse quand on veut rénover? Il y a le vendeur de fenêtres qui va nous dire, bah non, il faut changer les fenêtres. L'autre qui va nous dire, bah non, la chaleur part par le toit, donc c'est les combles qu'il faut isoler. Et c'est vrai qu'il faut, en effet, c'est prévu qu'il y ait un audit général de la maison et tout. Pour l'instant, c'est pas vraiment ça encore.
On n'a pas répondu à Benoît. Non, et je voudrais qu'on réponde
sur la question,
à Benoît.
Sur la question de la sortie du nucléaire et du soleil la nuit.
Ouais.
Deux choses. C'est-à-dire, il faut à la fois répondre sur la faisabilité d'un système où on n'a plus de nucléaire et où, si possible, on n'a pas d'énergie fossile pour produire de l'électricité. Et puis, il faut aussi s'interroger sur les risques de garder un système nucléaire par rapport à cette continuité de la fourniture d'électricité. Sur le premier point, on a aujourd'hui vraiment des démonstrations, et le scénario négawatt, effectivement, en fait partie, mais il est vraiment pas seul, de la faisabilité technique et du caractère raisonnable sur le plan économique d'un système électrique 100% renouvelable. Ça repose sur, un, effectivement, la complémentarité entre les différentes énergies renouvelables, le vent, le photovoltaïque, mais aussi la mobilisation de biomasse, l'hydroélectricité. Ça repose à des niveaux... ça devient nécessaire si on dépasse 40-50% d'électricité renouvelable, on en est loin, des solutions de pilotage de la demande et des solutions de stockage. Mais aujourd'hui, on a vraiment une certitude de plus en plus grande que le déploiement d'un système de ce type est possible. La vraie difficulté, c'est comment on transforme notre système actuel hyper centralisé dans un système très décentralisé et flexible de ce type-là. Ça, c'est pour la faisabilité d'aller vers un système 100% renouvelable. Quand on parle du nucléaire, il faut quand même s'interroger, en particulier avec la trajectoire qui a été fixée aujourd'hui, qui conduit grosso modo en 2035 à avoir 44 réacteurs qui auront 50 ans de fonctionnement en moyenne, sur les risques que ça représente. Moi, j'ai entendu François de Rugy aujourd'hui dire qu'il ne veut pas qu'il arrive en France ce qui arrive actuellement en Belgique, où, notamment par rapport à des problèmes de vieillissement, 6 réacteurs sur 7 sont arrêtés. Et ben, c'est pas en allant jusqu'à 50 ans avec nos réacteurs et même au-delà qu'on va s'éviter ce type de risque. Donc il y a aussi dans cette trajectoire d'importants problèmes possibles sur la sécurité d'approvisionnement.
Mais il dit aussi qu'il ne faut pas croire que si on ferme tout, on accélérera les renouvelables. Est-ce que vous êtes, vous trouvez qu'il a tort là-dessus ou pas ?
Alors, le président de la République et François Drugy ont répété ça. Ça, c'est une idée assez extraordinaire. Comme s'il n'y avait pas d'interdépendance dans le système d'électrique entre les différents moyens de production. Évidemment que si on maintient beaucoup de nucléaire et qu'on veut développer fortement les renouvelables, on se retrouve en surcapacité de production en France. Et la seule voie pour faire face à cette surcapacité, c'est d'exporter beaucoup d'électricité. Et derrière les annonces d'aujourd'hui sur la trajectoire nucléaire, il y a en fait une vision où on exporterait en 2035 150 TWh d'électricité ou plus. C'est-à-dire que un tiers pratiquement de notre production électrique serait destinée à l'exportation. Ce qui, incidemment, veut dire un parc en surcapacité, des prix de marché très bas, et donc un besoin croissant de subventionner nos moyens de production.
Bonsoir Eric.
Oui, bonsoir.
Et on vous écoute, allez-y.
Voilà, alors moi je voulais d'abord témoigner dans le cadre d'un projet qu'on a essayé de mener sur ma copropriété. Je suis propriétaire et je suis propriétaire d'un appartement dans cet immeuble. Et on a tergiversé pendant 3 ans pour voilà essayer de monter un projet qui était cohérent. Donc on a eu ces fameux audits, ça nous a coûté de l'argent. On a eu beaucoup de gens à intervenir, des gens parfois assez militants sur la rénovation énergétique. Et au final, c'est très décevant parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord. On a uniquement au final voté des travaux de peinture sur la façade. Et on a appris par la suite qu'on pouvait être coaché, qu'on pouvait être accompagné dans ce projet de rénovation. Et à travers cette forêt d'aide, à travers ces dispositifs d'accompagnement, on n'a pas su trouver les bons interlocuteurs au bon moment. Au final, la seule aide que l'on aurait pu avoir, c'était les certificats d'économie d'énergie, parce que soit notre projet n'était pas assez ambitieux, soit on était à jour de nos charges et on ne pouvait pas bénéficier d'aide de l'Agence nationale. Voilà, donc à quand un vrai accompagnement des copropriétés pour pouvoir faire les bons choix, prendre les bonnes décisions ensemble ?
Et attendez, j'ai une question subsidiaire avant qu'on essaie d'y répondre, de vous répondre. Ce qui a fait blocage au fond, est-ce que c'est le mélange et que personne ne s'y retrouvait, ou est-ce que c'est le prix ? Qu'est-ce qui a fait que finalement vous n'avez pas voté, que vous êtes contenté de faire de la peinture ?
Alors effectivement, le prix au final, mais on ne savait pas exactement combien tout ça allait nous coûter. Je disais que la seule chose sur laquelle on pouvait marcher était les certificats d'économie d'énergie, dont on a appris qu'ils étaient soumis à un marché, et qu'on ne connaîtrait pas la valeur de ces C2E tant qu'on n'aurait pas fait finaliser les travaux. Le crédit d'impôt n'était au final pas à l'échelle du temps de la rénovation de la copropriété. Une copropriété, ça doit se rénover en plusieurs années, et en fait la loi de finances n'est votée que sur une année. Et cette question du prix était bloquante, mais la question du projet commun l'était tout autant. Et on n'a pas réussi à un moment donné à se mettre d'accord.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Vous vouliez intervenir, Sandy?
Non, je voulais juste dire que ça rejoint exactement le reportage qui a été diffusé ce matin sur France Inter sur une start-up qui va voir les gens pour les aider à trouver les meilleures aides possibles pour la rénovation énergétique. C'est encore une fois un témoignage sur la forêt des aides, les gens s'y perdent.
Jean-Baptiste Lebrun.
Alors, ce qu'il faut dire sur ce sujet, effectivement, de l'accompagnement qui revient depuis le début de l'émission, et encore une fois dans ce témoignage, c'est qu'en 2015, au moment du vote de la loi sur la transition énergétique, était prévu un service public de la performance énergétique de l'habitat. C'est-à-dire, effectivement, un service public d'accompagnement pour justement donner des conseils, trouver les meilleures solutions, les meilleurs montages à la fois techniques, financiers, etc. pour tous ces projets dont on a entendu parler ce soir. Et 3 ans après, ce service public, il n'existe toujours pas. Et pire que ça, il n'est pas dans les trajectoires budgétaires du quinquennat. Donc ça, c'est un vrai problème. Nous, le CLER, on milite depuis très longtemps pour cette qualité d'accompagnement. Et évidemment, plus les situations sont complexes, les copropriétés, les ménages en situation de précarité, les situations, par exemple, de préservation patrimoniale ou d'enjeux particuliers, évidemment, ça a besoin de plus d'accompagnement. Et aujourd'hui, cet accompagnement-là, il faut le financer, et il faut le financer très probablement par les finances publiques et par l'impôt.
Et on a l'impression que c'est pas prévu, là, pour le coup. En tout cas, j'ai rien entendu dans ce sens-là.
Ce n'est pas dans les annonces de ce matin, ni dans le dossier de presse qui a été publié depuis.
Bonsoir Dominique.
Bonsoir.
Et soyez le bienvenu, Dominique, on vous écoute.
Alors, je voulais amener un témoignage concernant l'isolation des maisons et les économies qu'on peut en retirer. On entend beaucoup parler, quand on parle d'économie d'énergie, de changement du mode de chauffage. Et pour moi, c'est une aberration parce que il faut toujours fournir le même nombre de kilowatts à la maison pour la chauffer au bout d'une année. Donc, ce que j'ai fait chez moi, c'est une maison de 2003, une maison individuelle en Lorraine, donc il fait plutôt froid les hivers. Et j'ai fait faire des devis pour l'isolation extérieure, parce que c'était le point faible de ma maison. Et les devis étaient faits par des gens qui n'étaient pas forcément très tentés pour faire la manip. Et c'était un doigt levé entre 10 et 14 000 euros pour un devis qui était fait en à peu près 5 minutes. Donc finalement, je suis pas du tout dans le domaine. Je suis informaticien, mais je suis assez bricoleur. Et je me suis dit que je pouvais le faire. Et je l'ai fait. Ça m'a pris 15 jours de travaux. 2000 euros pour mettre 20 cm d'isolant et j'ai divisé ma consommation de gaz par 5.
Ce qui voilà, est plutôt donc, une bonne nouvelle.
C'est efficace, ça marche, on a gagné beaucoup en confort dans la maison et on pollue beaucoup moins. Voilà, c'était mon témoignage. Je pense qu'on peut faire des choses soi-même. On trouve énormément de tutos sur Internet, énormément de témoignages, des sites qui sont très intéressants. Et on n'est pas toujours obligé de passer par les moyens commerciaux. Le fait qu'il y ait des aides en France, la façon dont sont faites les aides font monter les tarifs des isolations, je pense.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Dominique. Alors évidemment, Yves Marignac, ça vous fait plaisir ce que dit Dominique. Et il a raison, et tant mieux pour lui, division par 5, ça fait beaucoup. Honnêtement, moi-même, avec un tuto, je le ferai pas toute seule. Non mais sérieusement.
Oui, c'est un exemple formidable, mais qui est évidemment pas généralisable. Et donc, ça renvoie exactement à ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que pour tous les autres cas, et en particulier les cas compliqués, il faut trouver des systèmes plus simples, et puis il faut trouver des systèmes aussi où les aides, effectivement, ne sont pas captées par des acteurs intermédiaires qui gonflent les devis proportionnellement à ces aides, et c'est tout l'intérêt d'une logique de service public, là encore. C'est vu aujourd'hui comme un coût, le déploiement de ce service public, alors que c'est réellement un investissement qui procure assez vite et dans la très longue durée des bénéfices pour la collectivité. Il faut, encore une fois, qu'on sorte des logiques économiques et budgétaires habituelles. On n'arrivera pas, sinon, à faire la transition.
Tiens, en parlant de logique économique et budgétaire, bonsoir Isabelle.
Oui, bonsoir et merci de vos émissions. J'ai une question qui en fait fait suite parce que je l'ai déjà, enfin pas posée sous cette forme, mais il y a 2 ans à François Hollande sur la question de la taxe Tobin à l'époque, suite à son discours du Bourget, il avait répondu qu'il se battrait pour mettre une taxe Tobin et qu'il serait complètement dédié à la transition écologique. Et du coup, tout le monde était un peu resté quoi et j'ai toujours eu cette idée en tête parce qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de parler de taxes. Et du coup, je me dis, pourquoi pas, effectivement, une taxe Tobin qui serait pas mal parce que du coup, là, dans la série répartition des richesses, ça serait intéressant et consacré à la transition écologique.
Isabelle, puisque vous avez posé la question à François Hollande, peut-être que vous aurez l'occasion de la poser aussi à Emmanuel Macron. Est-ce que, merci beaucoup Isabelle, est-ce que Jean-Baptiste Lebrun ou Yves Marignac, l'un comme l'autre, en fait, est-ce qu'on imagine, il y a beaucoup de gens qui nous parlent de problèmes de fléchage de l'impôt, au fond, en fait. À quoi ça sert? C'est ce qu'on a dit toute la soirée d'hier au téléphone sonne. Toute cette somme que je vous donne, moi je veux bien, mais est-ce que je sais exactement à quoi elle sert et pourquoi, en tout cas, elle n'est pas directement réinvestie vers des projets écologiques, que ce soit une taxe Tobin comme le suggère Isabelle ou autre chose. Est-ce que l'un des problèmes, c'est pas celui-là très typiquement en fait, Jean-Baptiste Lebrun?
La question de l'impôt, c'est éminemment la question politique. Donc c'est effectivement quel choix politique on fait dans les prélèvements et la manière dont on répartit ou dont on dépense la richesse commune que représente l'impôt.
Est-ce qu'on peut améliorer le fléchage, en tout cas? Est-ce qu'on peut au moins avoir une vraie idée, une bonne idée, un peu comme disait Isabelle, de ce à quoi est occupé cet argent-là que nous donnons parce qu'on roule et qu'on pollue, parce que une voiture diesel ou autre chose?
Effectivement, il y a un enjeu de lisibilité et puis derrière, il y a un enjeu de prendre les décisions. Moi, ce qui me plaisait dans cette question-là aussi, c'est quelque part les idées un petit peu disruptives, mm-hmm. y compris à des échelles plus vastes que seulement la France, parce que la taxe Tobin, effectivement, ça pouvait être un débat européen. Et alors, c'est vrai qu'on en
entend. Taxation sur les transactions financières, voilà. Pour remettre les gens en mémoire.
On en entend moins parler en ce moment, mais il y a une belle idée aussi qui est en train de se développer en ce moment, qui est celle de sortir les investissements pour la transition des règles d'austérité budgétaire, par exemple de Maastricht. Nous, au Clair, on fait la même proposition pour les collectivités. Le gouvernement a décidé de plafonner les dépenses de fonctionnement des collectivités locales. Ben, on aimerait que les investissements et les dépenses liées à la transition écologique soient exonérés de cette ou soient en dehors de cette obligation-là, parce qu'on sait que c'est un domaine dans lequel il va falloir faire plus. Donc voilà, ce genre d'idée un petit peu nouvelle sur la manière dont on flèche et dont on gère nos budgets et nos investissements publics, je trouve ça vraiment très intéressant et je pense que ça mérite des meilleurs sorts que ceux qui sont réservés actuellement.
Yves Marignac ?
Oui, cette question du fléchage de la fiscalité et plus largement de l'évolution des prix et du sens qu'on leur donne, elle est vraiment indispensable dans les deux dimensions de la politique, dans la dimension de son efficacité, parce que effectivement aujourd'hui les taxes ne sont pas suffisamment affectées, allouées à la transformation en profondeur qu'on a évoquée à plusieurs reprises, mais dans la dimension également symbolique, dans la dimension du sens. La question d'Isabelle, il y avait la question de la justice aussi, de la justice sociale. Et si on veut réaliser la transition énergétique, il faut embarquer tout le monde dans un projet de société.
Trouver
il faut
sens,
que ce projet
en fait.
Fasse sens. Et la manière dont on explique comment la fiscalité permet de répartir justement dans la durée les efforts et les bénéfices, c'est aussi un moyen politiquement de faire corps autour de ce projet.
Saouita, vous êtes le dernier ou la dernière. Pardonnez-moi, je ne sais même pas si je prononce correctement votre prénom.
Si, si, et vous prononcez parfaitement bien.
Bah, super, oui. On vous écoute, okay. Allez-y.
Bah, je voulais juste apporter un petit témoignage. Je suis architecte depuis une vingtaine d'années et j'appartiens à ces architectes qui font de l'architecture domestique, c'est-à-dire pour du particulier, donc aussi bien de la maison neuve que de la maison en rénovation. Et je voulais dire quand même à cette antenne, et je pense que c'est assez important, les architectes sont quand même là pour aider le particulier à pouvoir diagnostiquer une situation telle que celle que vous avez énoncée depuis tout à l'heure. Voilà. Et donc je pense que ne pas savoir par quoi commencer, par exemple, un architecte peut analyser, comprendre sur des budgets très petits, dire bah voilà, votre maison, on peut faire une rénovation énergétique qui peut se passer en une année, en deux années, en trois années, etc. sur tel type de budget. Sur plutôt des fenêtres ou plutôt de l'isolation, mais gérer ça avec les gens, c'est-à-dire qu'ils habitent forcément dans la maison, et ils ont un budget qui n'est pas extensible, mais voilà, et on peut déterminer des priorités. Je pense que l'architecte, c'est un bon interlocuteur, en fait, pour ce genre de choses.
Et voilà. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Merci beaucoup,
Saouita. C'est pour ça que je voulais le dire.
Merci, effectivement, Jean-Baptiste Lebrun. Effectivement, alors, faisons appel aux professionnels. En gros, c'est ce que dit Saouita. Et il a raison. On parlait de l'ordre tout à l'heure. On ne sait pas par où commencer. On ne sait pas comment ça marche. Pourquoi pas? Bon, après, ça a un coût. Effectivement, c'est comme tout.
Oui, puis alors, il faut une filière structurée aussi. Mmh. C'est pas des petits morceaux par-ci, par-là. Et c'est ce que Nicolas Hulot voulait faire. Une filière de rénovation vraiment complète et bon, ça n'a pas encore vu le jour.
Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a du travail pour tout le monde. Mm-hmm. Et effectivement, les architectes...
Plus de travail qu'aujourd'hui dans la
transition. Peut-être certaines ouvertures pour des métiers qui ne faisaient pas ça prioritairement autrefois.
Exactement.
Également.
Alors après, effectivement, la question, c'est... alors, c'est moins le cas sur l'ingénierie en amont, comme peut être l'architecte, mais après, il faut aussi se méfier, dans certains cas, effectivement, des conseils de professionnels qui peuvent avoir un intérêt. Je pense, par exemple, aujourd'hui, au fait que les énergéticiens proposent des conseils. Est-ce qu'ils ont un intérêt réel à ce que les gens payent moins ou consomment moins d'énergie? C'est pas sûr. C'est pour ça que, dans l'idée du service public, il y a une notion de neutralité, d'indépendance, qui nous semble extrêmement importante pour s'assurer que le chemin, il est cohérent avec les objectifs communs de la politique publique.
Voilà, avant qu'on se quitte, je me dois de vous poser la question à tous les deux. On commence avec vous, Yves Marignac. Qu'est-ce que vous faites, vous, précisément, pour changer les choses et vous, à titre personnel, pour le climat, pour l'écologie, qu'est-ce que vous faites, vous?
À titre personnel...
Je sais pas, vous êtes en vélo,
d'abord,
à cheval...
D'abord, je ne conduis jamais parce que je n'ai pas le permis de conduire, mais ça, c'est un peu facile comme réponse. J'essaye de faire des choses, je me heurte très sincèrement à la limite du temps que ça demande, qui vient un peu en contradiction avec le temps que je passe professionnellement et de façon militante pour promouvoir la transition énergétique.
Mais c'est honnête de le dire, tout le monde n'a pas le temps effectivement, y compris d'aller faire ses courses dans les endroits, de se faire des sacs en toile de jute et je ne sais quoi d'autre, que tant mieux pour ceux qui peuvent le faire. Jean-Baptiste Lebrun, vous, qu'est-ce que vous faites pour l'environnement ?
Moi, je vais vous citer un exemple, c'est que je me dispute très régulièrement au moment des vacances pour ne pas prendre l'avion dans mon ménage.
Et pas comme ça, vous.
Est-ce que c'est
et vous n'allez pas forcément loin, mais en même temps, pourquoi pas. Merci beaucoup. Portez-vous bien.